Théologie fondamentale, Père Philippe, 5 janvier 1984, Saint-Joseph.
Nous allons continuer ce traité de la prophétie. Nous avions vu, il me semble bien, la dernière fois, la prophétie est-elle un habitus ? Et saint Thomas nous montre comment l'habitus étant une forme permanente, il est donc évident que la prophétie, à proprement parler, n'est pas un habitus. Je ne crois pas qu'on avait vu les objections. Le corps de l'article, je le relis rapidement, on l'avait vu en partie, mais comme il est très long, on était resté au milieu. Comme le dit saint Paul, donc après le 7 contrat que je ne reprends pas, comme le dit saint Paul, toute manifestation de connaissance suppose une lumière. Lumière corporelle pour une vision corporelle, lumière intellectuelle pour une vision intellectuelle. Bref, il faut une proportion entre la lumière et ce qu'elle fait voir, comme entre une cause et son effet. Donc la lumière est cause de la manifestation, ce qui est manifesté, comme son effet. Dès lors, puisque la prophétie consiste à connaître des vérités qui sont au-delà de la raison naturelle, il faudra qu'elle bénéficie d'une lumière qui dépasse la raison naturelle. Aussi, le prophète Michée, dit-il, « Lorsque je suis dans les ténèbres, c'est le Seigneur qui est ma lumière. » Or, la lumière peut exister de deux manières dans un sujet. À l'état de forme permanente, telle la lumière corporelle dans le soleil, et dans le feu, par mode d'impression passagère, telle la lumière dans l'air. Mais la lumière prophétique n'existe pas dans l'intelligence du prophète à l'état de forme permanente. Autrement dit, il faudrait que le prophète eût toujours la faculté de prophétiser, ce qui est manifestement faux. On n'aurait qu'à presser sur le bouton, je vais vous prophétiser. Un cours prophétique. Je vous donnerai un cours prophétique aujourd'hui. Et puis je me mets dans un état de vous donner un cours prophétique. Puis il y a quelqu'un qui dit ça, ce sont des faux prophètes. C'est le signe magistral du faux prophète. On ne se désigne pas comme prophète et on ne prophétise pas quand on veut. On peut raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a saisi quand on le veut et quand ça nous semble bon. Mais la prophétie comme telle, je n'en suis pas le maître. Alors que je suis maître de mes habitus. Je peux, quand je veux, faire un acte de foi. Je peux, quand je veux, faire un acte d'adoration. Si j'ai la vertu de religion. Si j'ai la vertu de foi, je peux, quand je veux, faire un acte d'espérance. Je peux, quand je veux, faire un acte de charité. Parce que les vertus théologales sont des vertus, des habitus, que je peux exercer quand je veux. Tandis qu'au contraire, je ne peux pas prophétiser quand je veux. Je prophétise quand Dieu me donne la lumière. Saint Grégoire dit en effet à propos d'Ézéchiel, « Quelquefois l'esprit de prophétie fait défaut aux prophètes. Il n'est pas toujours à la disposition de leur intelligence, afin qu'ils reconnaissent, quand ils ne l'ont pas, qu'ils ne peuvent l'avoir que par un don lorsqu'ils l'ont. » Et voilà pourquoi Élisée disait au sujet de la Tsunamite, son âme est dans l'amertume et le Seigneur me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. En voici la raison de ce mode d'être passager. La lumière intellectuelle qui existe dans un sujet à l'état de forme permanente et parfaite perfectionne l'intelligence spécialement en vue de lui faire connaître le principe de toutes les vérités que cette lumière manifeste. Ainsi, par la lumière de l'intellect agent, l'intelligence connaît surtout les principes premiers de tout ce qu'elle comprend naturellement. Or, le principe des vertus surnaturelles que manifeste la prophétie, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut être connu dans son essence par les prophètes. Mais dans la patrie céleste, les bienheureux en qui se trouve une lumière à l'état de forme permanente et parfaite, le contemplent selon ce mot du psalmiste, « C'est dans ta lumière que nous verrons la lumière ». Il reste donc que la lumière prophétique existe dans l'âme du prophète par mode d'impression passagère. D'une façon passagère, je suis illuminé, comme la lumière du soleil dans l'air. C'est toujours l'exemple que prend saint Thomas. Per modum transeuntis, par mode de passage. Il reste donc que la lumière prophétique existe dans l'âme du prophète par mode d'inspiration passagère. C'est le sens de cette parole de l'Exode. Tandis que passera ma gloire, je t'établirai dans les grottes de pierre. Et de celle du troisième livre des rois au sujet d'Élie, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car voici que le Seigneur passe. Il résulte de là que, semblable à l'air, qui a toujours besoin de nouvelles clartés. L'esprit du prophète exige constamment de nouvelles révélations. Le disciple, qui n'est pas encore initié au principe de l'art, ne doit-il pas être instruit de chaque chose en particulier ? Aussi, Isaïe écrit-il, « Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille afin que je l'écoute comme un maître. » C'est ce que signifient également certaines expressions qui introduisent la prophétie dans les livres saints. Le Seigneur a parlé à tel ou tel prophète. Ou la parole du Seigneur lui a été adressée, ou la main du Seigneur s'est posée sur lui. L'habitus étant une forme permanente, il est donc évident que la prophétie à proprement parler n'est pas un habitus. Et c'est très long pour exprimer quelque chose de simple. La prophétie n'est pas possédée, n'est pas remise comme une lumière qui est un avoir pour le prophète. La prophétie est toujours donnée par mode passagère. Et donc, elle est toujours donnée d'une manière pauvre. Puisque c'est par mode de passage. C'est une lumière qui m'est donnée, une lumière divine qui m'est donnée, et que je ne peux pas posséder. Cette lumière divine m'est donnée momentanément, d'une façon passagère, pour que je comprenne certaines choses, et pour que je puisse les communiquer aux autres. Mais je ne possède pas cette lumière. Cette lumière est donnée par mode transitif, par mode passager, per modum transeuntis. C'est ça avant tout qu'il faut retenir. Ce n'est donc pas une vertu. La prophétie n'est pas une vertu. C'est douche écossaise, hein, vous voyez. Tout à fait. Ça vous est donné, puis plus rien. Ça vous est donné, plus rien. ça vous est donné. C'est très curieux. C'est un passage. On est illuminé de façon passagère. Et non pas du tout comme quelque chose qu'on possède. Donc on ne s'érige pas prophète. Quand vous voyez certains qui érigent certains prophètes, c'est faux. On ne s'érige pas prophète. Alors, voyons maintenant les objections et les réponses aux objections. Première objection. À première vue, on le croirait, car d'après Aristote, il y a trois catégories d'êtres dans l'âme. La puissance, la passion et l'habitus. Or, la prophétie n'est pas une puissance, sans quoi elle serait dans tous les hommes, puisque les puissances de l'âme leur sont communes à tous. Elle n'est pas non plus une passion, car les passions n'appartiennent pas aux facultés affectives, ainsi qu'il a été établi ailleurs. Et l'on vient de dire que cette prophétie réalise surtout de la connaissance. La prophétie est donc un habitus. Alors, voyons la réponse. La division donnée par le philosophe n'est pas exhaustive. Ça, c'est tout de suite intéressant de voir le théologien. Elle n'inclut pas tout ce qui se trouve dans l'âme, mais seulement ce qui peut devenir principe d'actes moraux. Certaines actions, en effet, sont faites par passion, d'autres par habitus, d'autres ne relèvent que de la puissance toute nue. Par exemple, en ceux qui agissent en vertu d'un jugement de leur raison avant qu'ils aient acquis un habitus. On pourrait cependant accepter cette division d'Aristote et dire que la prophétie se ramène à la passion. Mais en entendant par ce mot « passion » n'importe quelle influence subie par un sujet. En ce sens, Aristote a écrit que l'intellection est une passion. Dans la connaissance naturelle, l'intellect passif est soumis à l'action du patient. Dans la connaissance naturelle, l'intellect passif est soumis à l'action de la lumière de l'intellect agent. Pareillement, dans la connaissance prophétique, l'intelligence humaine subit une passion de la part de la lumière divine qui l'illumine. Vous voyez, c'est très intéressant comme manière d'expliquer. Aristote dit qu'il y a, c'est la division que prend saint Thomas à propos de cette objection, n'est-ce pas ? C'est toujours intéressant de voir cette référence à Aristote que saint Thomas nous donne. Que dans l'âme, il y a puissance passion il y a puissance passion et habitude regardez bien dans votre âme vous trouvez des puissances. Alors la puissance, c'est l'intelligence, c'est la volonté. Les puissances, c'est les facultés de concupiscibles et d'irascibles, et ainsi de suite. La passion, c'est un état passionnel. Je suis en colère. Hein. C'est un état passionnel, c'est quelque chose de passager. C'est un état passionnel, c'est un état. C'est passager, un état passager. Et l'habitus, c'est une capacité d'opérer plus facilement. L'intelligence, c'est une capacité d'opérer. Et la besoin d'être perfectionné par l'habitude pour opérer de façon plus facile. Donc l'habitude se permet d'opérer de façon plus facile. Ça ne donne pas la capacité d'opérer, mais ça donne un mode de facilité. Et la passion, c'est tout simplement une opération. Alors, où est-ce qu'on peut mettre la profession dans cette classification? Au fond, nulle part. La prophétie n'est pas une puissance. Si elle était une puissance, nous l'aurions tous. On se retrouverait comme prophète. Comme on se retrouve comme être intelligent. Alors on se retrouverait comme prophète. Donc, elle n'est pas une puissance. Elle n'est pas en bon pouvoir. Elle n'est pas une passion au sens rigoureux. Elle n'est pas une passion. Ce n'est pas une passion, c'est dans le spirituel. C'est dans le purement intellectuel. Quelquefois, il y a des reliquats imaginatifs. Elle n'est pas un habitude parce qu'elle n'est pas en bon pouvoir. Donc, elle n'est pas. Donc, on comprend ce que saint Thomas nous dit. Réponse, pour respecter la parole du philosophe, la division donnée par le philosophe n'est pas exhaustive. Elle n'inclut pas tout ce qui se trouve dans l'âme, mais seulement ce qui peut devenir principe d'action, d'actes moraux. Certains actes, en effet, certaines actions, en effet, sont faites par passion, d'autres par habitus, d'autres ne relèvent que de la puissance toute nue. Certaines actions, certaines opérations proviennent des habitudes, proviennent des actions, proviennent des puissances. Certaines actions, en effet, sont faites par passion, d'autres par habitudes, d'autres ne relèvent que de la puissance toute nue. Par exemple, en ceux qui agissent en vertu d'un jugement de leur raison, avant qu'ils aient acquis un habitus. Donc, saint Thomas consiste à relativiser cette division. Cette division d'Aristote, on connaît tout à fait, il la relativise en disant cette division n'existe que pour détecter les principes de l'opération vitale. Or, la prophétie n'est pas principe d'une opération vitale. La prophétie est une manifestation qui m'est faite d'une vérité qui jusque-là était cachée. Donc la prophétie, c'est une opération, mais ce n'est pas une passion. Cependant, alors c'est là la seconde partie de la réponse de saint Thomas, cependant je peux dire d'une certaine manière qu'elle est une passion, en transposant la passion. La passion, c'est justement un état passager, je subis. C'est le problème de la passion, je subis, je pâtis. Eh bien, dans la prophétie, je subis et je pâtis. Donc, il y a quelque chose d'analogue. C'est le point par où on pourrait trouver une analogie entre passion et prophétie. Dans toute prophétie, je pâtis. Il suffit de voir les prophètes, les vrais prophètes. Ils pâtissent. Il suffit de voir ordinairement des visions, ceux qui ont eu de vraies visions. Ils pâtissent. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose de semblable. Il y a quelque chose de tout à fait différent. C'est que la passion est au niveau naturel et humain, la prophétie est au niveau d'une intervention divine. Alors, voyons maintenant tout de suite la seconde objection. Toute perfection de l'âme qui n'est pas toujours en acte est un habitus. Or, la prophétie qui est une perfection de l'âme, n'est pas toujours en acte. Autrement, on ne dirait pas que la prophétie, que le prophète dort. C'est très bon. De temps en temps, le prophète dort. Quand il dort, il ne prophétise pas. Approchez-vous de lui, il n'est pas méchant. Il dort. On dit que si vous approchez de lui quand il est prophète et qu'il est éveillé, il peut vous envoyer une de ses prophéties qui vous fera une de ses frousses un temps, c'est ça ? Alors on voit très bien comment ça peut se faire. Alors la réponse de saint Thomas, dans les réalités corporelles, une fois la passion disparue, il leur reste une aptitude à subir de nouveau, à la subir de nouveau. Ainsi, le bois qui a déjà pris feu s'enflamme ensuite plus facilement. Il en va de même de l'intelligence du prophète. Quand la lumière divine a cessé de l'illuminer, il subsiste dans le prophète une aptitude à être plus facilement à nouveau sous l'influx divin. Pareillement, l'esprit qui s'est excité à la dévotion ne retourne-t-il pas ensuite plus aisément à cette ferveur première ? Saint Augustin remarque en effet que les prières fréquentes sont nécessaires pour que la piété acquise ne s'éteigne pas complètement. Avis aux amateurs, ça. Saint Augustin remarque en effet que les prières fréquentes sont nécessaires pour que la piété acquise ne s'éteigne pas complètement. On doit toujours l'alimenter. Et c'est vrai de la piété et de la faculté religieuse, et c'est vrai de toute vertu. Il faut les alimenter tout le temps. Les alimenter tout le temps, c'est-à-dire passer le petit nettoyage tous les jours en faisant des actes de vertu. Et c'est en faisant des actes de vertu que les vertus elles-mêmes prennent une acuité plus grande. On peut encore avancer une autre raison d'appeler quelqu'un prophète même après que la lumière prophétique a cessé de l'illuminer. C'est en vertu de la députation divine qu'a reçu, selon cette parole de Jérémie, « Je t'ai placé comme prophète au milieu des nations. » Dieu peut placer comme prophète, il n'y a que Dieu. Enfin, voyons, troisième objection. La prophétie fait partie des grâces gratuitement données. Or, dans l'âme, la grâce est un don. Or, dans l'âme, la grâce est un don habituel, ainsi qu'on l'a dit ailleurs. La prophétie est donc un habitus. On assimile les deux, vous voyez. Et saint Thomas va répondre. Tout don de la grâce surélève l'homme en vue de lui faire produire des actes qui sont au-dessus de sa nature, et cela de deux manières, par rapport à la substance de l'acte, comme de faire des miracles ou de connaître des secrets et des mystères de la divine sagesse. Pour accomplir ces actes, l'homme ne reçoit pas le don habituel de la grâce. Par rapport au mode de l'acte et non plus quant à la substance, comme d'aimer Dieu et de le connaître dans le miroir, des créatures, en ce cas, il y a octroi de la grâce habituelle. Donc c'est intéressant de bien noter ça. Bien intéressant de noter que, de fait, saint Thomas souligne que la prophétie est dans l'âme à la manière d'une passion. Parce que par là, on sauvegarde le caractère passager et on sauvegarde le caractère de subir. Le prophète subit. C'est pour ça qu'on voit dans l'Ancien Testament ces prophètes qui ne veulent pas être prophètes. Ils n'ont pas du tout envie d'être prophètes. C'est pas drôle d'être prophète. Parce que c'est annoncer aux gens des choses qu'ils n'aiment pas beaucoup. Moïse n'a pas du tout envie d'être prophète en face du Pharaon. Il supplie Dieu de ne pas le mettre prophète. Alors ça, ce sont des vrais prophètes. Ceux qui courent à toute vitesse à la prophétie, ce sont des petits prophètes qui ne sont pas des prophètes. Ils prennent le conditionnement du prophète. On va dire des choses, on va donner des explications, mais Ce n'est pas du tout bien de me dire non. Le vrai prophète pâtit. Ouais, c'est peut-être une des choses les plus importantes à saisir, ça. Le vrai prophète pâtit. Il pâtit sur la lumière. La lumière divine. La lumière divine lui est donnée, et lui est donnée de façon telle qu'il pâtit. Alors, voyons maintenant tout de suite, article 3, la prophétie n'a-t-elle pas pour objet que les événements futurs contingents. Ça, c'est très important. Très important pour faire comprendre le caractère propre de la prophétie. Vous voyez, si vous êtes attentif à l'ordre de cette question, parce qu'il faut essayer de le comprendre. La prophétie appartient à l'ordre de la connaissance. Deuxièmement, quel genre de connaissance? Un genre très particulier. Un genre passager. Article 3, n'a-t-elle pas pour objet que les événements futurs contingents? Alors c'est de savoir qu'est-ce qui détermine la prophétie. Qu'est-ce qui détermine la prophétie? Qu'est-ce qui est l'objet de la prophétie? Ça c'est très très curieux. Pensez à ce que nous avions vu en philosophie de l'art à propos de l'inspiration. Il faut penser à ça. L'inspiration regarde les possibles. Des possibles réalisables. C'est ça qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration ne porte pas sur une réalité existante. Je ne suis jamais inspiré à l'égard d'une réalité existante. Je suis inspiré à l'égard d'une réalité possible. Quelque chose qui peut se réaliser. Alors, voyons maintenant l'article que saint Thomas précise de cette manière. D'après saint Grégoire, la prophétie peut s'appliquer soit au futur, soit au passé, soit au présent. Au futur. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, lit-on dans Isaïe. Vous voyez, c'est ça, comme toujours. Les prophéties qui regardent le futur sont toujours obscures. Et elles ne sont pleinement intelligibles que devant le fait. Toujours. Ça, c'est un des caractères de la prophétie. Vous ne pouvez jamais préciser. C'est pour ça que quand on dit les dates de fin du monde, vous voyez, en disant ce sera en l'an 1984, n'est-ce pas? Ce sera l'année qui commence, c'est vraiment l'année qui va terminer l'univers, c'est une destruction extraordinaire, invraisemblable. Vous savez, la parole que le Saint-Père a dit en Allemagne, on a demandé au Saint-Père pourquoi, ça c'est bien, pourquoi les papes n'ont pas dit le secret de Fatima? Directement, on a dit ça aux papes. Sagesse. Parce que le secret de Fatima dit des choses tellement effrayantes que vous les recevriez par curiosité et que ça ne vous mettrait pas du tout dans une attitude de prière. Dire que des continents entiers disparaîtront par la mer. Que des continents entiers disparaîtront par la mer. Évidemment, c'est très curieux, on dira quel continent, évidemment. Moi, je ne sais pas. Et tout le monde ira habiter au continent. Donc, ce n'est pas la peine, ça excitera votre curiosité, ce n'est pas la peine, ce n'est pas ça qu'il faut. Non, il faut savoir que ces événements sont tout proches. Il dit ça. Alors, il n'y a qu'une seule arme, le chapelet. Et le Saint-Père a ajouté, on est tellement avancé dans cette ligne-là qu'on ne peut plus arrêter ces événements. On ne peut que demander à Dieu d'abréger le temps de l'épreuve et de diminuer le temps de l'épreuve. le prophète, annoncer des événements. Alors, c'est pas toujours bon, hein? Parce que alors, on s'imagine des choses effrayantes. Qu'est-ce que ça veut dire, du reste, les océans? Les océans qui la mer qui inondera des continents et qui fera que des continents disparaîtront. C'est pas le déluge, hein, parce que le déluge, ça vient d'en haut, là, c'est les eaux d'en bas. Bon. C'est pour augmenter votre imagination et votre inspiration, vous voyez? Bon. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils. C'était dit. Et le peuple d'Israël n'a pas su reconnaître. Il faut dire que la Vierge était bien cachée, grâce à Joseph. Au passé, au commencement, dit la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Parole prophétique. Soit au présent, si tous prophétisent, écrit l'apôtre, et que survienne un infidèle, les secrets de son cœur sont dévoilés. La prophétie n'a donc pas pour objet que les futurs contingents. La prophétie regarde le futur, le passé, le présent. C'est ça qui est très intéressant à voir. Hein? Vous comprenez. La prophétie est une lumière divine. Donc, une lumière d'éternité dans le temps. Le prophète reçoit dans le temps. Cette lumière d'éternité peut éclairer le passé, peut éclairer le présent, peut éclairer le futur. C'est ça que ça veut dire. C'est une lumière d'éternité qui éclaire le présent. Et on est prophète par rapport au passé, on est prophète par rapport au présent, on est prophète par rapport au futur. Évidemment, ça excite ordinairement un peu plus d'attention quand on prophétise le futur. Hein. Quand on vous dit qu'il y aura des événements effrayants qui vont arriver, évidemment. Et que ces événements sont tout proches. Et qu'on ne peut plus les écarter. Et qu'on ne peut qu'en diminuer la force. Alors, voyons le corps de l'article. Toute connaissance qui se fait par une lumière peut s'étendre à tout ce que cette lumière manifeste. Ainsi, la vision corporelle s'étend à toutes les couleurs et la connaissance naturelle de l'âme à tout ce qui est soumis à la lumière de l'intellect agent. C'est la lumière qui vient d'en haut. Elle n'est pas éternelle, hélas. C'est tout simplement la vision corporelle s'étend à toutes les couleurs et la connaissance naturelle de l'âme à tout ce qui est soumis à la lumière de l'intellect agent. Or, la connaissance prophétique se fait par une lumière divine qui permet de connaître toutes les réalités, qu'elles soient divines ou humaines, spirituelles ou corporelles. La révélation prophétique s'étend donc à toutes ces réalités. C'est ainsi que cette révélation aura pour objet, selon Isaïe, soit l'excellence de Dieu et les liturgies des esprits angéliques. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, soit les corps naturels, qui a mesuré les eaux dans sa main, soit aussi les mœurs des hommes. Romps ton pain à celui qui a faim. Soit enfin les événements futurs. Ces deux malheurs t'arriveront soudain, en un même jour, la perte de tes enfants et le veuvage. Ces différents lieux, ça c'est Isaïe 47:9. Il faut cependant remarquer que la prophétie ayant pour objet ce qui est éloigné de notre connaissance, Plus les réalités échappent à la connaissance humaine, plus elles appartiennent proprement à la prophétie. Or, ces réalités comprennent trois degrés. Le premier degré est formé des réalités sensibles ou intellectuelles qui échappent à la connaissance, non de tous les hommes, mais de tel ou tel homme en particulier. Ainsi, l'un connaît par ses sens les objets qui lui sont localement présents, alors qu'un autre les ignore parce qu'ils lui sont absents. Élisée, par exemple, aperçut d'une façon prophétique ce qu'avait fait en son absence son disciple Jehzi. Pareillement, les pensées intimes de certains sont manifestées à d'autres grâce à la prophétie, comme le dit saint Paul aux Corinthiens. De même encore, ceux dont l'un possède la science démonstrative, un autre peut aussi en avoir la révélation prophétique. Le deuxième degré comprend des vérités qui dépassent universellement la connaissance. Dépassent universellement la connaissance de tous les hommes. Non qu'elles soient inconnaissables en elles-mêmes, mais à cause de l'imperfection de la raison humaine. Par exemple, le mystère de la Très-Sainte Trinité. Ce mystère a été révélé par les séraphins qui s'écriaient, d'après Isaïe, « Saint, Saint, Saint ». Le dernier degré se comporte des réalités qui excèdent la connaissance de tous les hommes parce qu'elles ne sont pas connaissables en elles-mêmes. Par exemple, des événements futurs contingents dont la vérité objective n'est pas encore fixée. Ce qui peut arriver demain, vous voyez, les événements, les océans qui transforment les continents. C'est une vérité qui peut arriver, elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore arrivée, elle peut arriver. Alors ça dépasse les connaissances humaines, parce que ce sont des futurs contingents. Or, ce qui est universel et par soi, et premier par rapport à ce qui est particulier par un autre. Voilà pourquoi la révélation des événements futurs appartient de la façon la plus rigoureuse à la prophétie. C'est même de là que semble venir le nom de prophétie. Saint Grégoire a donc pu écrire « Les prophètes » dont la naissance. Pardon. Voilà pourquoi la révélation des événements futurs appartient de la façon la plus rigoureuse à la prophétie. Alors c'est par là qu'on le nom de prophète, de prophétie vient, selon saint Grégoire. La prophétie dont la nature est de prédire l'avenir perd la raison de son nom quand elle parle du passé et du présent. C'est très très intéressant ça. Vous voyez que saint Grégoire dit ça et saint Thomas dit l'inverse. C'est intéressant de mettre les deux en parallèle. Saint Grégoire dit la prophétie dont la nature est de prédire l'avenir perd la raison de son nom quand elle parle du passé et du présent. Et saint Thomas a au contraire monté que la prophétie pouvait regarder le passé et le présent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si je regarde la signification du nom, la prophétie ne regarde que les futurs contingents. Si je regarde non plus la signification du nom, mais la réalité profonde, toujours la question du nom et de la réalité. Si je regarde au contraire la réalité profonde, c'est Dieu qui m'infuse une lumière divine d'éternité qui va m'éclairer sur les trois zones de connaissance qui peuvent être éclairées par cette lumière divine. Et les trois zones de connaissance, on les a vues. Des connaissances que moi je ne connais pas, mais qu'un autre peut connaître. Des connaissances qui dépassent toute connaissance humaine. Donc il me faut entrer dans la transcendance du mystère. Et troisièmement, des connaissances qui regardent les futurs contingents. Donc, trois degrés de prophétie. Si je regarde la prophétie en elle-même, c'est-à-dire si je regarde ce que signifie le point de vue de la prophétie, si je regarde au contraire le nom et la signification du nom, ça ne regarde que le futur contingent. Ça, il faut bien le comprendre. Vous voyez, et c'est ce que saint Thomas va redonner dans les objections. On va prendre simplement la seconde objection, mais je ne veux pas la voir maintenant, on la verra la fois prochaine. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'il faut essayer de retenir? C'est que la prophétie comme telle, c'est de nous éclairer sur une réalité que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre. C'est ça la définition la plus précise de la prophétie. C'est Dieu qui m'éclaire, c'est Dieu lui-même qui m'éclaire sur une vérité qui naturellement m'échappe. Alors, elle peut m'échapper de trois manières. Parce qu'elle est au-delà de mes conditions de connaissance. Elle est au-delà de toute ma capacité de connaissance. Elle est au-delà de l'actualité de cette réalité, futur contingent. Donc il y a une triple transcendance. Et c'est ça qui est intéressant. Cette triple transcendance. Il y a trois transcendances. La transcendance par rapport à la condition de connaître. C'est une transcendance. C'est la plus chère. La transcendance par rapport à la raison de ce qui est connu, c'est-à-dire objective. C'est le surnaturel. Le surnaturel, c'est une transcendance objective. Et la transcendance par rapport à l'actualité de la chose. C'est les futurs contingents qui n'existent pas encore et que je peux voir. Il n'existe pas, mais je peux le voir. Je peux voir les océans déchaînés, n'est-ce pas, qui couvrent toute une nouvelle partie du monde. Je peux voir ça. Si c'est un futur contingent, oui. Parce que ça pourrait être, si c'est purement imaginatif, je m'imagine, ça n'existera jamais. Mais si c'est un futur contingent, ça n'existe pas encore maintenant, mais Dieu peut m'en donner une vision. Mais ce n'est pas encore actuel, hein. C'est du côté de l'exister. Ça transcende l'exister. Là, ça transcende l'objet, là, ça transcende l'état d'existence de la chose. Et là, la condition du connaissant.